Nous y voilà, mes enfants, la revue de Dépresse Comics avec les sorties du mois de novembre et ce qui a pu nous chagriner dans ce qui va sortir en novembre. Donc, comme d'habitude, quatre briques, Marvel, DC, Dark Horse et Image, le reste du monde. On va donc les faire dans le désordre le plus complet. On va finir par ici parce que c'est là où on a quand même le plus gros morceau pour finir. Alors les garçons, vous voulez commencer par quoi?
Les indés.
Le reste du monde, les indés, vous êtes tous les deux d'accord, c'est fabuleux. Eh bien, on va commencer par le Barack Obama du mois. Vous le savez, dans cette revue de Dépresse, à chaque fois, je vous raconte un nouveau truc un peu navrant, qu'un truc politico-merdique, soit une biographie dont personne ne veut. Alors là, ils commencent à ramer hein, pour vous faire des biographies chez Blue Water.
Ah bah, t'as bien vu qu'ils vont faire une biographie sur Ted Kennedy.
Oui, tout à fait, mais celle-là, elle devrait être annoncée en décembre, ce sera la revue de Dépresse de décembre.
Ah, voilà. Bien, hein,
mais le mois dernier, on ne voulait parler de Michael Jackson, on nous a aussi annoncé J.K. Rowling. Michael Jackson, J.K. Rowling, ils sont déjà à court d'hommes politiques intéressants aux États-Unis. Hein ah bah un peu ouais, quand même.
Surtout que quand même, je pense que DC aurait intérêt à essayer de récupérer la licence pour pouvoir adapter quelques comics sur Harry Potter ou cet univers-là.
Ouais, tout à fait. Ça peut arriver. Alain, est-ce que tu peux tendre le cou à ton chat qui vient de faire tomber un truc qui s'est entendu à l'antenne?
D'accord, je vais
mettre
ton cou.
Il n'y a pas besoin de l'enduire de moutarde, de le mettre dans une cocotte minute. Hein.
Ah ben ça, de toute façon, faut le peler avant de l'enduire de moutarde, sinon c'est dégueulasse, il y a des poils dans la moutarde.
Personne ne pèlera mon chat.
Oh, avec un tu fais une entaille au niveau de la pâte, tu mets le compresseur dessous, et ça le gonfle comme un poisson lune, et après ça se pèle tout seul. J'ai déjà la SPA qui va appeler. Bon, c'était une bêtise, il ne faut pas l'écouter les enfants, ne faites pas ça avec le chat de la grand-mère. Voilà.
La grand-mère par contre, oui.
Oh, c'est pas possible, alors enfin, pour qui on va passer? Donc, le Barack Obama du mois, c'est Fall of Red Sonja. Eh oui, Red Sarah, pardon. Donc, voilà. Ils vont peut-être se débarrasser de Sarah Palin. Elle s'est peut-être plainte de poser en peau de panthère sur ses couvertures de comics depuis maintenant plusieurs mois. En même temps, d'ailleurs, on nous fait un TPB avec les premiers numéros, donc 144 pages. Alors, ce qui est étonnant...
À quel prix
Le TPB, 18,99.
C'est déjà trop cher.
Bon, si j'arrive à trouver ça dans une convention londonienne au fond d'un balcon de comics poussiéreux...
C'est dessiné toujours par Chris Shuns, mais c'est écrit par Larry Emma. Alors, quand même, ce qui est étonnant...
Là, il a...
Il
a besoin de gagner du fric pour payer ses impôts. Hein.
Ah bah là, ça se voit. Donc quand même, ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que la loi américaine protège les parodies, et à condition que ce soit des one-shots. Là, ils prennent quand même des risques, parce qu'ils peuvent se bouffer des procès de Barack Obama.
Oui, c'est le premier amendement.
Enfin, voilà, tout à fait. Donc, ils peuvent se manger des procès de Sarah Palin, mais ils peuvent aussi se manger des procès de Dark Horse, et des procès de Dynamite pour avoir copié les concepts de Conan et de Red Sonja dont ils n'ont pas les droits.
Et accessoirement, ils n'ont pas les. Même pas des. Est-ce que c'est le Robert Walt Estate
qui
détient eux et qui les promet déjà à
voilà. Porter, sauf que comme ils sont c'est licencié auprès de ces auteurs, d'autres éditeurs, c'est aussi par rapport à ces éditeurs que doivent effectivement se faire les plaintes. Donc ça, c'est la première chose. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas l'acheter et qu'il ne faut pas exagérer. C'est un peu too much de nous en faire tous les mois. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez.
Pour un beau cadeau d'anniversaire pour Tony, pourquoi pas?
Non, mais est-ce que j'ai une tête à lire du Barack Obama?
Une tête à lire du Alicat, des Police Academy ou NFL Super Pro?
Seulement quand tu me les as offerts, Stéphane.
C'est toi qui les as tous offerts. NFL Super Pro, il y a quand même une raison technique. C'est le premier travail professionnel de Fabien Nicheza.
Voilà. En même temps,
c'est collecteur.
Le premier qui a acheté pour un pachyderme tout seul et volontairement, c'était toi.
Oui, c'est vrai.
Comment ça dénonce encore?
Ok, on l'a tous acheté après.
Mais c'est assez exceptionnel.
Voilà. Pour un pachyderme, on vous en parlera. C'est une des versions Marvel fantaisistes avec tous ceux qui sont en forme de fourmilier, enfin les héros Marvel en version.
Vous imaginez des héros Marvel, enfin un pachyderme, donc un serval avec un façon éléphant couturé de partout. C'est quelque chose de grandiose.
Voilà.
Je sais même pas comment, enfin, un éditeur en chef ait pu laisser passer ça, ou alors il était shooté là, enfin il était bourré voilà. À la cocaïne jusqu'au jusqu'aux narines, mais voilà. Je vois pas comment ils ont pu faire autrement.
Alors,
c'est un grand moment de lecture.
Tout à fait. Donc le deuxième titre chez les indépendants, c'est chez IDW, et je vous en parle parce que justement, ce n'est pas un comics. C'est un calendrier 2010. Qui sortira peut-être pour 2012. Non, je suis mauvaise langue, il est déjà sorti, en fait, il a déjà fait le tour des conventions, de Scott Campbell. Pourquoi est-ce que ça me fait râler ? Parce que si ce mec dessinait des comics plutôt que des calendriers, on pourrait enfin peut-être voir les choses qui nous attendent promises. La fin d'une série comme White Sizers, tout le monde se fout maintenant, mais quand même, quand on commence une série en 5, on est capable de la finir, ou au moins de laisser quelqu'un la finir à sa place.
Oui, mais enfin, quand tu vois les chiffres de vente qu'il y a eu et quand tu vois la qualité des de la dite production, excuse-moi, je préfère encore qu'on évite d'abattre des arbres pour sortir cette merde.
Ouais, enfin bon, s'il arrêtait de faire des contrats de couverture et d'être en place partout, ça serait aussi assez sympa.
À la limite, non, mais le problème, c'est qu'aux couvertures, on souffre moins. Au moins, on voit qu'une seule fois son dessin et basta.
Et puis, on achète la couverture alternative.
La couverture est moche, donc généralement, comme elle est sur des variantes ou des choses comme ça, on se débrouille pour prendre intelligemment la couverture classique et au moins on est tranquille.
Voilà, en tout cas Scott Campbell qui revient avec un calendrier. Il y a des sites sur internet, des sites français où on fait l'apologie de Scott Campbell en disant c'est super, il a sorti un calendrier. Non, c'est pas super parce qu'il a sorti un calendrier, il sort pas de comics.
Si, parce que enfin, ils ressortent chez IDW les Danger Girls
qui devraient reprendre sans lui. Parce qu'il y a juste le scénariste qui...
Il y a une nouvelle de son Spider-Man avec Jeff Lobb.
Depuis que Danger Girl, tu vois ces espèces abrutis, s'ils ouvraient une bouteille de champagne avec un tire-bouchon, maintenant, ça donne une petite idée du niveau.
Ouais, mais ça, c'était le scénariste, et lui, il est encore la Mounir Sharif. La quoi le scénariste.
Excuse-moi,
c'était Belshazzar, il s'appelle comment
Franck.
Voilà. Donc lui, il reste, il fera une nouvelle série. Avec un autre dessinateur, donc on s'en fout un peu, c'était effectivement les deux trucs chez les indépendants à noter.
Ouais, dommage parce que généralement, IDW a une programmation un peu plus...
voilà, mais il y a des tas de choses intéressantes à côté chez IDW, on vous invite à y regarder. J'ai d'ailleurs vu...
Malheureusement.
Voilà, je ne sais plus quelle chanteuse va travailler sur un titre d'horreur en anthologie avec des dessins je vais vous retrouver ça, c'était plus pour une revue de presse et c'est Scott Campbell qui travaillait sur X-Men le scénariste en même temps que Nicieza et c'est Lobdell. Voilà,
oui.
C'est Lobdell effectivement qui va faire ça. Je reprends les informations et je vous dis ça tout de suite. Donc les deux autres titres que j'ai pris en Dark Horse et Image, un Dark Horse à Image. Le premier c'est un Dark Image, on va faire Image, sur la même feuille je fais Image. C'est The Hunt 1. Alors oui je sais, je vous ai parlé le mois dernier du The Hunt 1 en revue de presse et là je vous en parle en revue de presse. Pourquoi ? Parce que Image fait régulièrement des numéros Collector's Edition le mois suivant, en même temps que le 2, pour relancer les ventes.
L'intérêt de la série.
Sauf qu'en général, on vous fait à 48 pages avec un bonus qui fait que vous regrettez d'avoir pris le 1. Là, il n'y a pas de bonus, c'est juste une version noir et blanc. Alors la version noir et blanc, en soi, j'ai rien contre. Ça peut être très sympa parfois. Sauf que
même souvent, parce que quelquefois, faut dire ce qui est, c'est que les mises en couleur ont quelquefois tendance à malheureusement gâcher le travail du dessinateur. Mais là, à 10$ le numéro, pour voir du Tom McFarlane, non. Faut quand même pas pousser, quoi. Ça ne vaut pas du tout.
Voilà, donc ça on est bien d'accord. Et donc là c'est vrai que quand même 10 dollars pour un truc où il n'y a même pas un bonus, c'est un peu se foutre de nous.
Oui,
même
bon,
si...
croisement de Batman, Batman, Spider-Man et de Spawn.
Ah moi je dirais rien. Robert Kirkman, j'ai tout dit.
Donc Kirkman peut faire des choses intéressantes.
Oui justement. Robert Kirkman, j'achète. Oui, mais là non.
Ah bah là, bah si.
Non. Moi si. Non. Voilà. Donc ça c'était effectivement.
Il y a des petites choses qui me bloquent.
Ouais, mais voilà. Donc ça c'était la première chose. Le deuxième titre c'est du Dark Horse. C'est aussi un titre qu'on a mis en revue de presse parce que c'est en fait un beau gâchis. C'est End League qui s'arrête au 9. Donc c'est une série dont on avait beaucoup parlé, qu'on avait pu apprécier. Et là, on nous annonce que la série s'arrête au 9 parce que tout simplement le scénariste Rick Remender est parti. Il a fait un contrat d'exclusivité avec Marvel et donc il ne peut plus travailler pour Dark Horse. Alors c'est quand même dommage parce que la série avait un beau potentiel. On a eu deux dessinateurs qui se sont succédés qui ont fait une série assez intéressante. Et là, pour le 9e et dernier, on a un troisième dessinateur qui arrive. Donc c'est vrai que c'est un peu une fin très décevante pour une série qui méritait quand même nettement mieux.
Oui, enfin je pense que c'est là, comme c'est du créateur Hound, il y a quand même des possibilités qu'elle puisse être rééditée, enfin ou du moins ressortir un peu plus tard, une fois que le contrat d'exclusivité sera fini. Il y a eu le problème, la même chose avec The Fear Agent ou des séries de ce type.
Qui est du même auteur et qui est également arrêté.
Oui, mais qui avait déjà changé d'éditeur, enfin bon, qui avait connu un parcours un petit peu plus chaotique. Mais ça, à la limite, c'est pas quelque chose qui m'inquiète.
Voilà. Alors, excusez-moi, c'était même pas une chanteuse, c'était Jennifer Love Hewitt qui lance ce titre chez IDW avec Spot Club L. Voilà, exactement. Et donc, comment ?
Elle chante pas aussi, elle
C'est possible.
Non, attends, si elle chante aussi bien qu'elle joue, pitié, hein.
Ah, mais vous êtes tous mauvais. Et donc là, elle sort une anthologie d'horreur qui est dessinée par Michael Geddos.
C'est celui qui avait travaillé sur Alias.
Oui.
Ah, ça peut quand même valoir le
Voilà, ça s'appelle Jennifer Love Hewitt Music Box. Et donc, on va avoir effectivement cette série qui peut proposer des trucs intéressants au niveau de l'anthologie. Voilà. Et ça, c'est effectivement plus quelque chose qu'on aurait pu mettre la semaine dernière en revue de presse, il y a 15 jours. Donc, sur ces titres-là. Donc,
on va passer au titre Marvel. Alors, sur Marvel, le premier titre qui m'a, moi, chagriné, c'est Iron Man contre Whiplash. Donc, Whiplash, c'est le vilain, l'homme au fouet. En soi, une série comme ça, pourquoi pas ? Bon, les scénaristes, c'est Brannon Braga et Mark Guggenheim. Et le dessinateur, c'est Phil Bryon. Donc on pourrait déjà dire, le dessinateur est français, Cocorico, machin truc. Sauf que quand on a vu la couverture de Brandon Peterson, on a vu le look de Whiplash. Et là, qu'est-ce qu'on a dit les garçons, voyons le look ?
Ça ressemble diablement au film.
Ah bah ça se ressemble surtout diablement à rien.
Bah surtout que le personnage en plus était un petit peu mort, donc déjà c'est une énième nouvelle version.
Voilà, bon, en même temps c'est un costume, tout le monde peut le porter, hein, ça, là-dessus il n'y a pas encore trop de problème. Et c'est vrai que là on nous dit que c'est une série spéciale en continuité qui mène au film Iron Man 2. C'est en continuité ou ça mène au film? On ne sait pas, d'après Marvel c'est les deux. Est-ce que le film sera en continuité Marvel? On a un gros doute.
Oh, ça va être difficile, hein. Mais bon, ça, on est un peu dans cette espèce de logique-là, de délire, d'essayer de faire converger tous les médias. Regarde les Secret Origins Superman, Secret Origins qui viennent sortir qui vont sortir. Les premières previews, on retombe comme par hasard sur spoiler, hein, désolé, la pluie de météorites qu'on avait dans Smallville.
Ouais, tout à fait.
Donc bon, à partir de certains moments,
en même temps,
les médias, enfin chaque média peut avoir sa propre continuité, ses propres spécificités. C'est pas la peine d'essayer de.
Mais en même temps, il y a comme toujours ce gros doute de est-ce qu'on laisse mort le Pakent ou pas, machin truc. Donc il est mort. Ça sert à rien de l'avoir tué en même temps.
On l'a juste tué parce qu'il était mort dans la série, dans les premières versions de Superman. Après, il a été ressuscité pour se refaire trucider, pour être ressuscité avec un autre reboot, pour se faire refaire découper. Bon, arrêtez quoi.
Mais là en plus il est mort entre les scènes, on l'a pas vu mourir, enfin voilà.
Bon. Bah sinon à partir de ça, bon, ok, ça va peut-être fournir un peu de viande à Blackest Night.
Voilà, monsieur, c'est possible, et d'ailleurs je crois même qu'il fait partie des ressuscités.
On s'en m'étonnerait pas, ils ont mis ressuscité Terry Long et le bébé. Alors.
Voilà, tout à fait. Le bébé d'ailleurs c'est marrant parce qu'il nous le ressuscite dans un berceau, alors que le bébé en question il avait quand même 4-5 ans quand il est mort, et il marchait déjà. Hein. Donc c'est vrai que quand on le voit dans le berceau, on est un peu étonné. Toujours est-il que on a quand même cette série. Alors on va voir, c'est pas forcément mauvais, c'est juste effectivement cette espèce de gros mélange, et puis le fait qu'on revienne sur les bases de ce film avant même sa sortie, qui commence déjà à m'énerver. J'attends déjà le
même coup avec les X-Men, enfin 1 et 2, hein. Enfin, surtout pour le 2. Le 3, ils avaient quand même compris que c'était pas la peine, parce que vu les scores pathétiques des comics, mais bon, là,
il n'est pas vraiment fait parce qu'il croyait que ça allait pas vraiment marcher.
Ouais, mais le 2, par contre, ils étaient allés à la
paye lourde. Hein. On avouera.
Hélas.
Voilà, on avouera là-dessus, il n'y a effectivement aucun doute. Donc, ensuite. Eh bien, c'est War Machine. Alors, War Machine, c'est une série de Greg Pax qui fait suite aux épisodes donc qu'on a eu dans le Monster qui est sorti la semaine dernière. Donc, vous avez eu ce Monster où on vous a montré le début de ce qui allait se passer pour War Machine avec sa transformation. Et on nous a annoncé une série par Leonardo Manco. Moi, Leonardo Manco m'a dit c'est comme Kirkman, j'achète. Parce que bon, c'est pas forcément le meilleur Leonardo Manco qu'on ait vu. Ça, c'est effectivement une chose, mais après, on peut.
Il était un cran en dessous de ce qu'il avait pu faire sur Hellblazer.
Et qu'il continue à faire sur Hellblazer.
Non, mais non, c'est Corben qui est passé par là.
Voilà, mais a-t-il provisoire, Corben ?
Oui, mais magnifique d'ailleurs. Enfin, regardez.
Voilà. Donc là, effectivement, on a ces éléments. Donc, on va donc avoir des choses quand même assez sympathiques, je pense, sur cette série qui peuvent venir. Mais en attendant, là, on nous annonce déjà que, enfin, c'est assez controversé. Donc, les autres, ils en sont contre lui et que la série, elle va peut-être s'arrêter au 12.
Non, c'est officiel, ça a été officialisé sur les forums par les des grands pontes de Marvel.
Mais c'était pas encore sur le preview en question, effectivement.
Non, mais pas sur le preview, mais c'est après, parce que bon, force de se faire tanner et de poser des questions là-dessus, bah effectivement, oui, ils ont lâché le morceau, quoi. Mais alors, bon, c'est tout simplement parce que comme c'est en préparation de ce qui va arriver après avec à la fin de Dark Reign, alors.
Ouais.
Bon, donc, si c'est pour lancer des séries comme ça qui en ongoing, qui devraient être plus des maxi-séries, je vois pas trop l'intérêt.
Jim Rhodes, président des États-Unis.
Non, parce que dommage, la série partait sur de bons auspices, elle était assez intéressante.
Après, moi, ce qui m'avait un peu chagriné, c'est qu'on avait quand même, on le voyait dans ce côté soldat qui travaille, auprès des petits enfants, machin, qui sont malheureux, dans un côté un peu trash. J'avais préféré la version où il travaillait pour une ONG dans la version des années 90, qui était pas si mauvaise, avec un Gabriel Jacquot qui était quand même un dessinateur très sobre, trop sobre pour attirer du monde, mais quand même assez efficace. Voilà.
Donc là, je trouve quand même un peu limité techniquement. Quand même.
Voilà. Là, je trouve quand même que c'est un beau gâchis.
C'est plus dommage parce que Greg Pak a quand même des idées et puis il sait manipuler, enfin manier ses scénarios. Quand on avait pu le voir sur ses storylines dans Panhandle et pour la suite, qui était quand même vraiment sympa. Et là, il y avait du potentiel, mais c'est un peu dommage. Enfin, je trouve que c'est dommage de l'avoir gâché comme ça.
Voilà. Donc sur la deuxième série, on va arriver donc sur le deuxième éditeur. Donc on arrive à DC. Avec une autre série qui s'arrête au 12, mais cette fois-ci c'est officiel, c'est Vigilant. Alors Vigilant, on en a déjà un peu parlé, c'est donc du Wolfman et du Rick Leonardi, et sur le papier ça paraissait vachement intéressant, n'est-ce pas là ?
Et avec Paul Simonson.
Sur le papier ça paraissait vachement intéressant.
Couverture.
D'ailleurs, voilà. Ça m'a fait acheter la série.
Ça t'a fait acheter la série. Et c'est vrai qu'en fait, au final, c'est assez brouillon. Moi, ce qui m'avait un peu découragé de faire le titre, même si j'adore Leonardi, c'est que j'avais lu son arc de Nightwing avec Vigilant et j'avais pas trouvé ça bon. Et là, j'ai pas été déçu par la série, elle est dans la même peine.
Donc, en plus, les intrigues qu'il avait lancées dans l'arc de Nightwing, il les a expédiés en deux pages dès le premier numéro de Vigilant, donc on demande tout ça pour ça, effectivement.
Enfin, donc en tout cas, le seul événement marquant pour moi de la série, c'est le dernier épisode du crossover avec les Titans. Crossover qui était inintéressant, mais la fin est quand même assez surréaliste. Ça vous le lirez bientôt en version française, puisque il devrait nous passer quand même ce crossover. Je vois pas comment ils vont pouvoir y échapper en français. C'est pas non plus un chef-d'œuvre. C'est assez décevant. Mais en même temps, les deux séries Titan sont assez décevantes. La Vigilante c'était assez décevante. Ça n'est à réserver qu'aux amateurs de Rick Leonardi. Mais de toute façon, ça sert.
Il faut dire que quand même l'univers Titans actuellement est un poil malmené. Hein. la série titre, la série 14 Titans, c'est vraiment une cata. Et bon, la série Titans, alors n'en parlons pas. Alors, elle ne tient que actuellement. Enfin, à la limite, c'est plus que les petits numéros one shot qui sont centrés des spotlights sur un des les héros séparés qui sont plus intéressants.
Voilà. Donc, en même temps, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est sur cette base, puisque il n'y a plus de scénaristes et d'auteurs réguliers. On nous a annoncé déjà un nouveau run après cette série de one shot où Deathstroke sera le chef des Titans. Et là, je vois Stéphane qui se tape la tête contre le micro.
Donc, attendez, on revient dans les années 90 ou quoi là?
Ouais, je crois. Je crois.
La clone saga, maintenant le Deathstroke of the Titans. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire revenir maintenant?
Ah bah, ils reviennent, tout le monde revient là. Je te rappelle que c'est Blackest Night, tout le monde ressuscite.
Oui, voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous sortir de pire encore que ça?
Voilà, ils peuvent toujours. Ils peuvent toujours.
Ouais, ils peuvent se débarrasser de Batman. Ah, merde.
Oui, ils peuvent le ramener aussi.
Oui, aussi.
Voilà. Donc, ça fait une très bonne transition pour le nouveau titre. C'est le nouveau titre d'ici sur les titres Batman, c'est Batgirl. Alors, on le savait, il y avait deux séries toutes les séries Batman ont été lancées pratiquement en même temps. Il y en a deux qu'on nous avait annoncées plus tard avec une mini-série Azrael et une série Oracle. Les deux séries limitées avaient été assez décevantes.
Ah oui, là, ils avaient vraiment raclé le fond.
Voilà. Donc, sur la série Azrael, le même scénariste revient sur une ongoing dont on a déjà parlé. On avait dit qu'on achèterait simplement les deux annuels qui lancent la série parce qu'il y a quand même du Tom Mandrake dessus. C'est quand même un annuel consacré sur The Question. Voilà. Donc là, il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes. Par contre, sur la série donc Oracle The Cure, elle amenait à cette série Batgirl par Brian Q. Miller. On ne savait pas effectivement qui était le personnage. Alors, je ne vais pas vous dire qui est la nouvelle Batgirl. Si vous êtes un minimum...
toujours pas.
Si, on sait.
Oh, je sais pas, non.
Ah, tu sais toujours pas?
Ben non.
Ben, je vais te le dire en antenne pendant la musique. Et voilà, et c'est une nouvelle très très décevante, qui est presque trop facile, qu'on est un peu pathétique. Et voilà, et on se dit que finalement, il fallait mieux nous laisser Cassandra Cain.
C'est pas une ancienne Robin par hasard? Non.
Ça pourrait bien, ouais.
Ouais, ouais. C'est aussi un synonyme de...
Ouais, ce qu'il faut pas dire, ouais.
Oh, bordel.
Voilà. Donc, j'aime bien les réactions de Stéphane en direct. Vous avez compris pourquoi on est tous dépités. Donc, cette série, effectivement, qui nous fait un peu peur. Et puis, on va finir par quelque chose qui n'est pas vraiment à proprement la revue de presse, mais qui est en complément de la revue de presse qu'on y a fait il y a 15 jours. Il y a 15 jours, on était plutôt optimiste sur le fait que Marvel soit racheté par Disney en disant que ça n'allait pas changer grand-chose et que de toute façon, Warner possédait déjà DC. Et là...
Comment
Warner
dire,
s'est réveillé.
Un gros séisme. Bah, Warner était un petit peu le monstre endormi. Bah, manque de peau, Godzilla s'est ébroué et a commencé à faire sa razzia. Et non, tu ne mets pas Puff Daddy, s'il te plaît.
Je n'ai rien fait.
Non, mais je te vois tripatouiller les CD. Je préfère prévenir que guérir.
Faut me prévenir parce qu'il faut que j'aille le demander à la radio, le Puff Daddy, parce que moi je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, Warner a décidé de restructurer DC.
Alors, il n'existe plus puisque c'est maintenant une nouvelle société.
Voilà. Donc on a viré l'éditeur en chef qui redevient un simple éditeur.
Non, c'est
l'éditeur en chef, le président.
C'est le président,
Paul Levitz. Donc il revient éditeur et scénariste.
Oui, puis consultant, enfin avec un poste, grosso modo un placard doré, à leur fin, certes, mais où on le fout pour qu'il soit un plus ou moins un peu.
Il est toujours
consultant éditorial pour des idées ou autres, mais grosso modo plus ambassadeur de la société, et on lui met comme joujou un hochet Adventure Comics avec la Legion,
voilà.
Sur lequel il avait travaillé il y a longtemps.
74, ouais, quelque chose comme ça. Enfin, pour faire simple, on le laisse parler, mais on lui a dit qu'on ne l'écouterait plus. C'est un peu ce ça.
Oui, mais en fait, c'était quelque. Rétrospectivement, c'était quand même un mouvement auquel on pouvait s'attendre. Ouais. Alors, peut-être pas forcément aussi rapidement.
Et surtout pas après une nouvelle comme celle de.
Pas aussi rapidement et peut-être pas aussi violemment. Parce que c'est vrai que ça a pris tout le monde un peu, tous les analystes et tous les spécialistes de cours. Parce qu'en fait, Warner venait de faire transiter, enfin venir quelqu'un de la branche, enfin de sa branche cinéma, qui était une spécialiste des grosses licences. Pour ça, tout dire, je ne me rappelle plus le nom de la minette.
Son nom m'échappe aussi.
C'est
un truc comme ça, non?
Ouais, enfin, un nom quelconque d'américaine moyenne.
Mais enfin, peut-être nom quelconque d'américaine moyenne, mais c'était quand même elle qui avait en charge la gestion de la licence Harry Potter pour le cinéma. Et qui avait la pleine confiance de J.K. Rowling. Ce qui était quand même, en connaissant un petit peu, quand on connaît un peu les rapports qu'elle avait pu avoir avec ses éditeurs et tout, était quelque chose un petit peu exceptionnel. Et elle avait quand même, on commençait à la voir apparaître dans l'organigramme DC pour travailler un peu sur les synergies qu'il pouvait y avoir entre justement le portefeuille de personnages et les possibilités juteuses de développement cinématographique.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a demandé à tous les auteurs de comics leur avis sur Disney Rachel Marvel, ça a été du super à ça va pas changer grand chose. Et quand les spécialistes ont demandé aux auteurs de réagir dessus, personne n'a voulu réagir. Ce qui montre bien qu'il y a quand même des inquiétudes au niveau DC qu'on n'avait pas au niveau de Marvel. Voilà.
Alors la dame s'appelle Diane Nelson. Hein,
voilà, Diane Nelson. Bah voilà.
Donc là, effectivement, ça risque
d'être de management et de marketing. Que des mots qui font peur.
Oui, et puis, bon, effectivement, d'après ce qui commence à ressortir, il semblerait qu'il y ait les restructurations soient vraiment très très lourdes avec quasiment des déménagements de pôles. Mais ça, c'est quelque chose qui vient de sortir aujourd'hui et qui demande d'être confirmé. Ça serait un peu les derniers ragots du moment.
Bah, mais je pense qu'on va voir.
Ça, effectivement. Côte Vieille s'est réveillé, quoi. Sur Tur, c'est un peu le Ragnarok du comics, là.
Voilà.